marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Je ne suis plus Jean Rouche, je suis Ciné Rouche.
Jean Rouche, l'ethnologue à la caméra.
Je m'approche et l'on entend crier « La viande, la viande !»« Courez la hyène, voilà la viande !» Père de sorcier, grand-père de sorcier, les dieux maintenant attendent les sacrifices. Et moi, j'aurais dû continuer à filmer, mais j'ai voulu faire un film et je me suis éloigné lentement pour voir ce que voyaient les enfants des écoles, cette petite place du village au dernier rayon du soleil, où, au cours d'une cérémonie furtive, les hommes et les dieux parlaient des récoltes à venir.
Un rituel de possession dans un village du Niger, on utilise les tambours d'avant, c'est le titre du film, mais ceux qui en jouent sont des contemporains. Jean Rouche n'a jamais appartenu à cette école de l'ethnologie qui fixait l'Afrique dans des traditions immobiles, sous l'œil de dieux immuables. Il n'aimait pas davantage le vocabulaire économique qui présentait l'Afrique comme un continent en voie de développement. Non, il utilisait le simple vocabulaire d'aujourd'hui dans l'attente des récoltes à venir. L'ethnologie, telle qu'il la pratiqua, tirait son originalité de l'usage qu'elle faisait de la caméra. Il n'aima jamais la position du narrateur extérieur et il pratiqua la production partagée avec des compagnons indispensables. Nous parlerons beaucoup de Damouré Zika. C'était un pêcheur sorco en rupture avec l'école. Il fut son interprète, le personnage principal de nombre de films, notamment de ceux tournés en Europe. Il faut voir Damouré dans une gondole, se demandant si les Vénitiens ne sont pas fous, à s'obstiner à vivre dans l'eau alors qu'ils ne sont pas nés poissons. Ethnologie partagée, ethnologie renversée. Rouche préparait toujours les récoltes à venir. Aux quelques 140 films qu'on lui connaissait à sa mort, il faut ajouter tous ceux qui restaient à l'état de roche dans des boîtes. Un malencontreux accident de voiture au Niger, toujours, en 2004, a barré sa route. Il aurait pu continuer toujours et toujours. Comme son vieil ami Manuel de Oliveira, qui tourna bien au-delà de ses 100 ans. Il lui disait d'ailleurs, le plus important, ce n'est pas le film. Le plus important, c'est que celui-ci donne naissance à d'autres films, les récoltes à venir.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Laurent Pellet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes animateur l'année durant du Festival international de cinéma ethnographique, appelé Jean Rouche. Jean Rouche que vous avez rencontré il y a bien des années, quand vous étiez jeune étudiant en archéologie africaine, un peu désœuvré peut-être.
Un peu désœuvré, effectivement, à ce moment-là. Il fallait que je rebondisse, que je trouve une solution, parce que l'archéologie africaine était un peu abandonnée par les instituts. Et un jour, en discutant avec un de mes professeurs en archéologie, il me dit « Mais Jean Rouche, tu connais Jean Rouche ?» Je dis « Un peu, oui, je connais un peu ses films. » Eh ben, il me dit « Il faut que tu ailles le voir. » Donc, il a appelé Jean, et puis, deux jours après, j'étais avec Rouche, à son café, le Bullier. Et là, tout de suite, il m'a dit, pour bien s'entendre, il faut que tu me tutoies, hein. Et alors, ça a été difficile, hein, je dois dire que c'était pas simple. Et moi, j'avais lancé un pari un peu fou, c'était de voir tous ses films. Alors, il m'a dit, d'accord, on y va. Et je me suis retrouvé, dès l'après-midi, avec Françoise Foucault, son assistante, devant des tonnes de films. Je savais pas lequel choisir, c'est lui qui a pris le premier.
C'était et accès libre chez Jean Rouche.
Ah, toujours.
Ouais. Cinémathèque
partagée. Le comité du film était toujours ouvert.
Dites-moi, quand avez-vous découvert ces photographies? Parce que il a été photographe, et photographe avant d'être en Afrique, en France. On voit des photos de Yannick Bellon, dont il était amoureux dans les années 1940. Ils se sont quittés après, mais retrouvés dans une passion commune, le cinéma.
Tout à fait. Alors les photos, je les ai découvertes... toujours au comité du film, par une journée un peu sombre, en ce sens où elles avaient été rassemblées par des techniciens du musée et elles devaient être envoyées à la poubelle. Donc, on a regroupé tout cela avec Françoise Foucault et Jean arrivant l'après-midi, parce qu'il arrivait toujours l'après-midi, hein, il n'était jamais là le matin au comité, et en arrivant, bah, je lui dis, ben voilà, il y a tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Il me dit, ça t'intéresse? Je lui dis, bah oui, évidemment que ça m'intéresse. Travaillons déjà sur les sons-rails, hein, là où il était. Et il me dit, ben vas-y, fais le travail. Et ensemble, on a passé des semaines, des mois, 3 ans, à légender, à retrouver les informations à travers ses carnets de terrain, à travers des articles aussi, parce qu'il les avait pas mal publiés. Et notamment, il y avait tout un ensemble de photos extraordinaires, comme vous le disiez, avant l'Afrique. Hein, il a été un photographe hors pair dès l'adolescence.
Et son haï, Niger. On va les retrouver dans un autre pays que le leur, émigrés dans un film sur lequel on va s'arrêter un instant. C'est presque le 10e film, on est en 1954, de Jean Rouche. Nous sommes dans ce qui s'appelle maintenant le Ghana, on est un petit peu avant l'indépendance de l'Afrique anglophone comme de l'Afrique francophone, dans les faubourgs d'Accra, la capitale, un rituel de possession, encore un rituel de possession, chez un prêtre. Et Jean Rouche va entrer dans la cérémonie qui consiste à voir des hommes trembler de plus en plus parce que des génies les possèdent, les génies Aouka, qui sont si puissants qu'ils peuvent faire braver aux hommes qu'ils habitent tous les interdits.
Les hommes attendent. Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien? Parce que justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les Aouka tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement. Et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les Aouka soient possédés. Et la possession commence. Lentement, par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu, pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un Aouka.
Alors il entre, Jean Rouche, dans le processus. Ça dure très peu de temps. Le tournage de cette séquence, l'essentiel des maîtres fous, c'est une journée. On ne peut pas rejouer. C'est du cinéma vérité.
C'est la vérité de Jean Rouche au cinéma. Hein, c'est surtout ça. C'est ce qu'il veut montrer de ce rituel des Aouka, qui sont ces génies de la force, ces génies de la modernité et ces génies du monde colonial. Et Jean se met au cœur du rituel, de l'espace déjà où a lieu la cérémonie, et il va à la recherche avec sa caméra de chacun des participants au rituel.
Alors ce sera gonflé, c'était du 16 mm en 35, c'est monté, parce qu'il n'y a pas que cette séquence, et celle-ci est peut-être montée elle aussi.
Toutes les séquences, effectivement, il y a un gros montage dans ce film, parce que il y a une journée de tournage du rituel, mais il y aura aussi d'autres moments qu'il va ajouter au film, et qu'il va inclure dans la cérémonie. Il va chercher à faire lien entre ce qui se passe au moment du rituel des Aouka et ce que ça représente symboliquement par rapport au monde de l'administration coloniale, notamment britannique.
Alors, il y a le jour, il y a le lendemain où il va retrouver les protagonistes de la cérémonie.
Le lendemain, nous sommes allés voir les Aouka à Accra. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des Waterworks. En comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, On ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous ne connaissons pas encore.
Alors, ils sont dans un milieu historique, ces gens qui ont été possédés la veille. Ce sont d'ailleurs des travailleurs immigrés d'un autre pays, le Niger, qui viennent au Ghana.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont un nom, on les appelle les Abrama. Hein, ce sont des gens qui viennent pour parfois de courtes périodes ou pour des périodes plus longues sur la Gold Coast, comme s'appelait le Ghana à l'époque. Et ils travaillent aussi bien dans les mines, aussi bien dans les ports comme dockers, hein, aussi bien comme dans les travaux publics. Et en fin de compte, c'est le prolétariat qui est en train de filmer rouge d'une certaine manière. Et tous ces Aouka représentent une hiérarchie colonial. On a le gouverneur, on a l'adjudant-chef, on a aussi la femme du médecin, on a aussi le conducteur de locomotive. Donc c'est la modernité, ce sont les machines, c'est le monde du bruit aussi. Et tout ce monde-là influe et la construction des génies Aouka, de chacun des personnages.
Interprétation a posteriori par Jean Rouch, la première diffusion du film, chez vous, au Musée de l'Homme, non ?
Exactement.
Ayant provoqué...
Des remous, beaucoup de remous. En 1955, lors de la première semaine du film ethnographique, Jean Rouch présente son film. À l'époque, il était muet, donc Jean faisait le commentaire au micro. Et dans la salle, c'était plein de remous, notamment de la part de ses professeurs en ethnologie.
Et parmi ses professeurs, le grand maître pour lui, Griol.
Griol était rouge, les noirs étaient gris. Et puis moi, je me retrouve avec ce film qu'on me demandait de détruire. Les Africains ne pouvaient pas supporter qu'on montre un sacrifice de chiens sanglants. Ça voulait dire vous êtes des sauvages. Et les Blancs ne pouvaient pas supporter leur image après tous les maîtres fous. C'était ces gens-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé le film Les Maîtres Fous, avec le jeu de mots qui voulait dire ces gens qui sont maîtres de la folie, mais ces gens dont les maîtres sont fous, c'est-à-dire nous. Et c'est vrai, c'est notre portrait. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les mêmes Africains qui le rejetaient considèrent que c'est peut-être le seul document que l'on ait sur l'époque coloniale, le seul qui montre comment des Africains pensaient cette période coloniale en la jouant.
L'ethnologue et la caméra en situation coloniale. Mais là, on parle d'interprétation. Parlez-nous d'équipement aussi, Laurent Pelé, parce que c'est important de savoir avec quoi il tournait. Alors là, c'est une caméra 16 mm.
Une caméra 16 mm Bellowell, mécanique, et qui avait un temps d'enregistrement de 20 à 22 secondes. Donc, ce qui faisait que Rouch, au moment où il tournait un plan, il pensait déjà au plan suivant. Il faisait déjà, en fin de compte, ce qu'il va appliquer ultérieurement, hein, et enseigner aussi, le tourner monté.
Mais vous dites, le film est muet au moment de sa première projection. Néanmoins, on va y entendre la langue des possédés. C'est un peu une glossolalie, enfin une sorte de langue comme chez les pentecôtistes américains.
Tout à fait, oui, oui.
Venus d'on ne sait où, qui ne correspond à aucune langue connue. Puis il y a de la musique, non ?
Oui, il y a un peu de musique. Et ça avait été enregistré au moment du rituel. Et là, Jean s'était servi de ses assistants, des personnes qui l'accompagnaient. Et il avait mis un micro dans un arbre. Et ce qui lui a permis au moment du montage d'entendre le cliquetis de la caméra pour savoir quand est-ce qu'il tournait. Et donc il y avait une espèce de synchronisation possible. Alors c'était un grand bricolage, parce que bon, Jean a toujours été un immense bricoleur.
Oui, parce que quand il lui manquait un son, toujours dans ce film, hein, il mettait des enregistrements du boulevard Malesherbes.
Oui, tout à fait, c'était pas un problème. Il l'a fait aussi dans d'autres films, hein, où il est allé tourner des rugissements de Lyon aux eaux de Vincennes.
Oui, mais enfin, il faut faire attention quand même. Un film sur la chasse à l'hippopotame. Une musique enregistrée à part, dans le même milieu social. Mais une musique qui correspond à des séances de pêche. Et alors, ses interlocuteurs, parce qu'il renvoie ensuite le film à ses interlocuteurs, c'est partagé. Ses interlocuteurs lui disent « ça va pas du tout ».
Ah, pas du tout, effectivement. Et ils ont même dit à Jean que la musique avait permis à l'hippopotame de fuir. Hein. C'est dans le film Bataille sur le Grand Fleuve, qui tourne quelques années avant Les Maîtres Fous, en 1951. Et là, il se rend compte qu'on ne peut pas utiliser la musique n'importe comment. On peut pas la mettre sur n'importe quel type de séquence. Et à partir de ce moment-là, il va faire très attention. Et d'ailleurs, la musique sera pas si présente dans son cinéma. C'est rare. Sauf pour les films essentiellement tournés en France.
On pourrait faire la recommandation à beaucoup d'auteurs de films documentaires aujourd'hui. Le silence peut être utile de temps à autre. Vous avez parlé des assistants de Rouche. Ces assistants vont devenir des compagnons. Il y a même des générations de compagnons qui sont nés de Rouche. Voici l'hommage d'un griot, cinéaste, qui a fait toutes sortes de métiers. Abdoulaye Boka, c'est un homme de 35 ans, donc c'est la génération d'après, et même la génération d'après-d'après. Célébrons, dit-il, la mémoire de Rouche. Il a tout donné à ce continent. L'Afrique lui rend hommage. Documentaire, cinéma du réel, cinéma vérité, cinéma direct. Ça, ce sont toutes sortes d'interprétations qui sont convoquées. Il va parler de Vertov et de Flaherty, ciné-vérité, ciné-documentaire. L'homme à la caméra, c'est Rouche en Afrique.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec aujourd'hui Laurent Pellet, directeur du Festival de cinéma ethnographique qui porte le nom de Jean Rouche. Jean Rouche dont l'aspect expérimental permanent de l'œuvre vous étonne toujours. Si on continue à parler du rapport entre les blancs et les noirs, de l'anthropologie partagée, une expérimentation, un lycée en 59, quelques années donc après l'indépendance, tout de suite après l'indépendance, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a une gamine qui vient de Paris, elle dit c'est bizarre la classe de première, là il y a une barrière qui sépare les élèves noirs et les élèves blancs. Alors peut-être avec l'aide de Jean Rouche, elle va lancer une expérimentation, quelque chose sur la table qui va provoquer beaucoup de désordre d'ailleurs.
Oui, beaucoup de désordre parce qu'en fin de compte, Jean va vouloir associer donc ses étudiants ivoiriens avec ses étudiants métropolitains et d'expérimenter la constitution d'un groupe, à partir de quoi ce groupe peut se réaliser, à partir de quoi il peut se fédérer. Et
mais en clair, Laurent Pellet, Nadine dit, bah tiens, on pourrait faire une surprise partie, puis on inviterait les Noirs.
Exactement. Et alors ça, c'était une grande nouveauté, notamment au cinéma.
Mais ça se passe bien.
Ça se passe très bien. Nadine passe une très bonne soirée. Et néanmoins, par la suite, on s'aperçoit qu'il y a des dissensions entre les uns et les autres, que parfois le racisme pointe son nez, les ententes, elles se créent, puis après elles se délient. Et en fin de compte, Rouche fait un cinéma expérimental sociologique. Déjà, ça annonce certains des films qui tournera ultérieurement. Mais l'expérience, il l'avait déjà tenté avec un film 2 ans avant qui était Moins un noir. Qui était un film aussi sur les migrants, son rail, mais là, à Abidjan.
Oui, mais maintenant, si on fait l'expérimentation de l'autre côté de la Méditerranée, en France, par exemple, ça va s'appeler, ou on peut l'appeler, l'ethnologie renversée. Il faudrait que vous nous disiez un mot de Damouré Zika, que vous avez déjà cité. Alors, compagnon indispensable.
Indispensable, qui est là dès la première année de présence de Jean au Niger, en 1941, et jusqu'à sa mort, au moment de l'accident, Damouré était dans le véhicule. Et Damouré Zika était un jeune lycéen qui n'aimait pas beaucoup l'école, hein, qui était vraiment en rupture même scolaire. Et en rencontrant Rouche, ils échangent sur quoi ? sur la possession, ils échangent sur les rituels, et d'autant plus que la grand-mère de Damouret était la principale prêtresse du bief de Niamey. Et avec Damouret, ça va être nombre de missions scientifiques, en tant qu'interprète, en tant qu'assistant pour les tournages, en tant que fixeur pour trouver certains informateurs. Damouret fournissait des indications de lieux pour pouvoir aller faire des enquêtes. Donc c'était vraiment l'homme indispensable et l'homme de l'amitié aussi. C'est que entre Rouge et lui, c'est plus de 70 ans d'amitié, de rencontres et de voyages.
Plongeons-le maintenant en France, un voyage d'un type inédit en 1969. Damouret est censé, avec des amis, avoir fondé une société à Niamey qui s'appelle Petit à Petit, c'est aussi le titre du film. Et cette société cherche à construire des gratte-ciel à Niamey sur le modèle des grands immeubles, les immeubles de grande hauteur parisiens. Et Damouret vient donc s'informer à Paris, puis il envoie des sortes de lettres persanes dans son pays, et puis il se livre aussi à des explorations, on peut dire ethnologiques.
On a toujours montré des blancs qui allaient voir ailleurs, et notamment des gens d'autres couleurs. Enfin, par exemple, des noirs vont raconter Paris et la France.
Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Je fais de l'ethnographie, je suis étudiant, il me manque une mesure pour avoir mon diplôme, s'il vous plaît, monsieur. Je peux prendre vos mesures?
Très gentil, vous êtes un bon garçon.
Pourquoi vous faites ça?
Eh bien, je fais ça surtout c'est parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés, c'est pour voir le poids, monsieur.
Ah bon?
Voilà. Vous êtes magnifique, vous êtes assez gros, très bien, c'est parfait. 32, 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces Parisiens ne sont pas beaux. Ils sont trop... D'abord, ils sont trop petits. Puis, ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des grosses jambes. Ça ne vaut rien.
Et ensuite, d'inspecter les bouches des femmes pour compter le nombre de dents avariées, etc., etc.
Tout à fait. Et là, Jean s'est servi de Damouret avec l'improvisation, parce que l'essentiel des films, tout fonctionne sur l'improvisation. Et Damouret est un jeune étudiant en ethnologie et qui va à la rencontre des Parisiens pour étudier leur état de santé, en même temps pour s'amuser de Paris. Hein, et de ses habitants. Et il y a ce côté un peu amusant, amusé, à jouer en permanence et à donner, eh bien, en fin de compte, l'avis d'un Africain sur les Parisiens.
Mais on est dans la rue, comme dans le cinéma contemporain de la Nouvelle Vague, avec du matériel léger.
Toujours. Jean aura toujours tourné avec du matériel léger, du 16 mm. Il est très très peu passé au 35 mm. Et avec le Nagra, à partir du début des années 1960, quand le son pouvait être synchrone. Et il avait son équipement idéal, en fin de compte. Un Nagra pour le son, la caméra 16 électrique, et des chargeurs de 10 minutes, donc pour pouvoir faire aussi du plan séquence.
Quand on parle d'anthropologie partagée, on voit ce que c'est, mais la production partagée, il y a un contenu financier à ce concept?
Oui, il y avait Jean avait monté une société, alors avec des statuts, paraît-il, mais néanmoins, cette société permettait à Jean de redistribuer ses droits d'auteur à chacun de ses amis, et elle avait pour nom Dallaruta. Dallaroud la première année, puis après il y a eu Ta. Da, c'est Damouret, La, c'est L'âme, Rou, c'est Rouge, Ta, c'est Talou. C'est le quatuor que l'on va retrouver dans un film comme Cocorico, Monsieur Poulet, qu'on va retrouver aussi dans Madame Lowe en 1991. Voilà, c'est le quatuor qui se construit au début des années 60 et qui va jusqu'aux années 2000 être ensemble pour tous les films.
Cocorico, Monsieur Poulet, ça a à voir avec ça de chevaux, non?
Oui, bien sûr, ouais. Jean était un fanat de chevaux.
Alors, puisqu'on parle d'automobile, il faut dire que il y avait de l'argent qui venait de certains producteurs de la Nouvelle Vague. Il pouvait aussi y avoir de l'argent des sociétés qui commercialisaient les véhicules automobiles en Afrique.
Exactement.
Et alors, ça donnait toujours dans le genre cinéma léger, mais au second sens du mot, ceci, qui s'appelle foot girafe, c'est donc un match entre une girafe et des automobiles Peugeot. Qui va gagner ?
La 504 marque du terrain, approche de la girafe, peut-être que le premier but est proche. Nous sommes actuellement dans la surface de réparation de la 403 dans le terrain de gauche. La 504 ralentit au dernier moment, voilà que la 403 arrive et ramène la girafe vers le terrain de droite. Immédiatement, la 403 doucement poursuit. Ah, la girafe échappe, retourne de l'autre côté, repart vers la droite. La 504 immédiatement suit derrière et l'amène dans son terrain. Un but est proche. La girafe part dans les rochers, part dans les rogniers. Elle va peut-être, c'est peut-être elle qui va gagner le match en semant ses poursuivants. Non. Voilà la 403 qui revient très fort sur la girafe, qui va essayer, comme d'habitude, de la ramener dans le camp de droite. La 504 a des ennuis, sans doute, parce qu'elle a voulu aller trop vite dès le début. La 403 suit. Aïe. Que va-t-il se passer ? La 504 revient. Et au dernier moment, la 504 arrête la girafe, marque le but. Un but à zéro, la 504 mène.
Mais si je me souviens, c'est dans un véhicule Mercedes qu'il a trouvé la mort en 2004. Alors justement, après sa mort, l'important ce sont les films qui sont amenés par les films. Dans les boîtes, il y a encore beaucoup de films inachevés.
Il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de films. Alors, c'est des films qui sont pas finis, évidemment, parce que Rouch faisait toujours des expériences, hein, comme toute sa vie, il a expérimenté. C'était aussi son petit côté surréaliste. Hein. Et quand ça prenait pas, quand ça le satisfaisait pas, en fin de compte, comme il disait, si j'avais pas le ciné-plaisir et si j'avais pas la grâce, c'est pas la peine de continuer. Mais néanmoins, pour nombre de cinéphiles, de chercheurs, de passionnés de Rouch, il y a encore un continent à découvrir, mais aussi à travers tout son travail ethnologique dans ses carnets et dans ses photos.
Merci à vous, Laurent Pellet. Que reste-t-il à découvrir ? C'est la question pour finir. Alors, la découverte, c'est à la technique Stéphane Boja, Léa Polverini à la préparation, Audrey Ripouille à la réalisation. Et puis la découverte, c'est la nouvelle saison de la Marche de l'Histoire qui va commencer dès ce lundi 27 août. Souhaitons-nous bonne rentrée.